Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant TV avec La vie devant toi. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Chose promis, chose due. Je vais vous passer l'interview de Maïra Schmitt qui est dans le film La vie devant toi, qui joue Lisa Le Goff. Mais d'abord, comme il y en a, je suis sûre, qui n'ont pas écouté l'émission d'hier, hein, il y a des petits retardateurs, mais qui l'écouteront après en podcast, je pense, on va vous relire le synopsis.
Violette, 16 ans et promise à un avenir de nageuse de compétition, décide d'assumer son homosexualité. Portée par des parents bienveillants, elle tombe amoureuse de Lisa, mais cette dernière a du mal à afficher ses sentiments. Leur amour bascule lorsque Violette se fait agresser alors qu'elles étaient ensemble. À son réveil à l'hôpital, plus aucune trace de Lisa. Par la suite, elle découvre que Lisa connaissait son agresseur. L'aurait-elle manipulé ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir.
Voilà. Donc hier, je vous ai parlé et je vous ai passé l'interview de Zoé Errant, qui joue Violette Saugier, et je vous ai parlé de ses parents, Emma Saugier et Mathieu Saugier, qui sont joués par Éléonore Bérem et David Kamenos. Pour moi, c'était important, voilà, de compartimenter ces deux familles, parce que, voilà, il y en a une famille qui soutient vraiment son enfant. Violette est vraiment soutenue par sa mère et son père. Ils font tout pour lui permettre de s'évader et d'accepter sa condition et d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur. Et de l'autre côté, eh bien, on a la famille de Lisa Le Goff. Et Lisa Le Goff est jouée par Maïra Schmitt. Et je vous dis qu'une chose, c'est que je l'avais eue en interview. On avait pu parler d'un film vraiment sublime et j'avais pu discuter avec elle, mais comme c'était pendant la période Covid, eh ben on avait fait ça à distance au téléphone. Donc c'est vrai que j'avais très très envie de la rencontrer, et grâce au Festival de fiction de La Rochelle où a été passé en avant-première le film La vie devant toi, et nous en tant que journalistes on a pu le voir aussi en avant-première et rencontrer l'équipe de film, eh bien j'ai pu avoir aussi, comme l'interview de Zoé Errant, j'ai pu avoir l'interview de Maïra Schmitt et la rencontrer en face à face.
Bonjour.
Plaisir de te voir.
De te voir pour de vrai.
La Rochelle.
Oui. Enfin. Oui, oui.
Alors, dans La vie devant toi, dans Lisa, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce rôle?
Ce qui me plaît le plus dans ce rôle, je dirais que c'est la fragilité, en fait. C'est rare, pour moi, c'est rare de... Je suis quelqu'un qui a beaucoup mes émotions, qui monte pas grand chose et tout. Et là, en fait, des fois, il y avait à la fin de la journée, je disais à Sandrine, la réalisatrice, mais j'ai fait que chialer toute la journée. Et en fait, ça a eu un impact, en tout cas, dans la vie perso. Ça a remué plein de choses. Donc, je pense que c'est ça que j'ai préféré chez Lisa. C'était que pour une fois, on montrait un personnage sensible et qui passe par tout un tas d'émotions, mais qui les vit vraiment, qui a la honte de pas pouvoir aimer librement. Moi, je la sens vraiment touchée par tout ça, et voilà, ça a fait écho à plein de trucs perso. C'est ça. C'est ça. Du coup, elle les vit à moitié, mais ça se passe pas hyper bien parce que c'est qu'à moitié. Et puis elle se fait du mal, et elle fait du mal aux autres, et elle s'en veut, et en même temps c'est la famille ou l'amour, et au bout d'un moment il faut bien trancher. Puis c'est une recherche de soi aussi intéressante, quoi.
Alors elle a le rapport devant avec ses parents, avec la famille, avec son frère, ouvert, où il rigole, où il y a des petits sourires, et en arrière, quand ils sont tous les deux, on sent cette tension.
Ouais.
Même si au début on ne comprend pas pourquoi, mais on sent cette tension. Comment ça s'est passé avec celui qui joue ton frère?
Eh ben Tristan, c'était hyper touchant parce qu'il était vraiment chamboulé par ce rôle, et ça se voyait vraiment. Et en fait, du coup, il y avait j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Enfin, quand on jouait ensemble, je prenais vraiment beaucoup son émotion en plein fouet, quoi. Du coup, c'était assez agréable parce que ça rendait les situations vraiment vraies. Et en fait, bon, il est vraiment très très différent dans la vraie vie, donc c'était aussi génial de pouvoir voir quelqu'un jouer, quoi, un personnage qui n'est pas du tout et qui compose vraiment. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée de jouer avec lui. En fait, moi, je trouve que finalement, dans la télé, bon, après, j'ai pas vraiment fait d'unitaire ou de série où ça allait très 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 vite, où il y avait 15 000 séquences par jour. Enfin, si, remarque, j'en ai fait un petit peu. Ouais, en fait, je réfléchis, mais si, j'en ai fait un petit peu. Ce qui est facile, c'est que je sais que moi, plus je commence la séquence, plus ça se passe bien. C'est-à-dire que dès que ça va durer trop longtemps, je réfléchis. Et à partir du moment où je réfléchis, c'est terminé, ça, il y a plus rien qui passe, c'est mort. Donc en fait, au final, ce rythme me va bien. Après, bien sûr, enfin, des fois, on prend beaucoup plus de temps. Ça m'est déjà arrivé de tourner des unitaires comme si c'était des longs métrages, en fait. Et du coup, avec un rythme beaucoup plus lent et avec, on tournait une à deux séquences par jour, donc c'est vraiment que dalle. Et en fait, ça se passait très bien. Et j'adorais aussi prendre le temps. Donc c'est un entre-deux. Moi, j'aime bien justement qu'il y ait l'entre-deux, que des fois ça aille vite, que ce soit pressé et tout ça, et puis des fois qu'on ait aussi la possibilité d'avoir des trucs un peu plus calmes. Ça fait travailler deux choses différentes. L'un, c'est plus la technique, parce que du coup, bah, il faut être efficace. Et puis l'autre, ça fait travailler la profondeur, donc c'est bien aussi, quoi.
T'as joué dans Les Sept Vies de Léa.
Oui.
Avec ce côté, du personnage de Disney.
Oui.
Alors, mon point particulière dans l'épisode 2, ton personnage aussi a des... mais il est attiré par...
Ouais.
Là,
ça me colle à la peau.
S'interdit d'aimer une fille, mais elle l'aime. Ouais. Voilà, mais à un moment donné, elle se dit non, c'est fini. Comment tu arrives sur ces rôles d'LGBT et quel est le retour de cette communauté?
Je pense que c'est parce que c'est ce que les scénaristes veulent montrer aussi aujourd'hui de la jeunesse. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un point qui traverse beaucoup les esprits, que ce soit à mon âge, à la vingtaine, les gens beaucoup plus petits qui sont au collège, c'est des questions qui arrivent beaucoup plus tôt. Et c'est vrai que du coup, moi, je me les étais pas forcément posées dès le début, mais ça a fait travailler des choses à l'intérieur de nous, quoi. Mais bon, là, ça, c'est vrai que ça fait plusieurs rôles. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je pense que c'est des questions qui se posent actuellement et que du coup, je suis vraiment contente d'en parler. Après, j'ai pas forcément beaucoup de retours de communauté LGBT parce que je suis pas non plus, je revendique rien, j'en parle même pas, en fait. Enfin, tout ça, après, reste du cercle privé, mais... Donc du coup, voilà, il y a pas vraiment d'échange et de retour. D'ailleurs, j'aimerais bien parfois échanger... mais en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est pas forcément une caractéristique. Bon, là, La Vie devant toi, si, en l'occurrence, parce que ça traite de ce sujet-là. Mais souvent, en fait, c'est le personnage qui est comme ça. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. C'est que, en fait, c'est comme ça, point final. Et voilà, quoi. C'est assumé, c'est clair. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de retours dans Les Sept Vies de Léa. C'est pareil, on voit un baiser entre les deux filles, mais c'est comme ça, quoi.
Si dans les sept, on va continuer.
Ouais.
Dans Les Sept Vies de Léa, personnellement, on est d'accord toutes les deux, c'est des sacrées performances. Comment vous avez vécu ce tournage?
Moi, je m'étais dit, le fauteuil roulant, on s'assoit et on roule et voilà. Et en fait, quand ils m'ont dit, va y avoir de l'entraînement pour le fauteuil roulant, parce que c'était un peu compliqué parce que le casting, il voulait faire quelque chose de très inclusif et donc du coup prendre quelqu'un qui était vraiment handicapé. Le problème, c'est qu'il y avait un côté technique. On tournait dans des lieux, dans les gorges du Verdon, dans la montagne et tout ça, qui était même pas accessible en fait pour une personne handicapée. Et du coup, ils ont refait un autre casting. Moi, je suis arrivée sur le tournage, ils avaient déjà commencé le tournage. Du coup, j'ai dû vite prendre des cours de fauteuil et c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Puis surtout, voilà, quand on est habitué, c'est comme, j'imagine, quand on sait bien chanter depuis longtemps, au bout d'un moment, on a envie de faire des petites, des choses différentes, on a envie de prendre ce qu'on a, quoi. Donc, du coup, là, en fauteuil, c'est vrai que c'était ça. Et après, ça s'est fait naturellement. Enfin, j'avais vraiment des partenaires. J'ai surtout tourné avec Raika, mais c'est une partenaire extraordinaire. Et du coup, qui m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait, on voulait vraiment faire passer le message que être handicapé, bien sûr, c'est un handicap, mais on peut faire plein de choses et ça peut donner des personnes très heureuses, très ouvertes d'esprit, qui mènent des vies presque normales, au-delà de tout ça, quoi. Donc ça m'a beaucoup réveillée sur la vie. Ça m'a fait me rendre compte de plein de choses, parce qu'en fait, les entraînements, on les faisait dehors. Dans la ville, avec des gens, donc le regard des gens qui est très fort sur les épaules. Ça, moi, je me suis dit, je m'en ai pas compte, en fait, mais c'est vraiment... Tout le monde vous regarde avec la plus grande pitié du monde, donc au bout d'un moment, c'est lourd, en fait, à porter.
On a vu devant toi, c'est les échecs, là.
Oui. Ouais.
Tu sais jouer aux échecs ?
Pas du tout.
T'as appris un petit peu.
Voilà, on a une petite base, mais rien de très poussé non plus. Mais.
Et il y a dans ces scènes Malo.
Oui.
Qui est, on va dire, le confident quand même
oui.
Si elle n'arrive pas à tout lui dire.
Bah Malo, moi je trouve qu'il a un rôle important parce que au final, il est vraiment le pilier de Lisa. Et sans lui, elle pourrait pas cacher entre grandes guillemets. Son homosexualité, même si lui il le sait pas directement, parce que du coup elle lui cache à lui aussi que Violette est son amoureuse, elle lui dit que c'est sa cousine qui vient d'arriver en ville. Ouais, c'est super dur. Et c'était bien parce qu'en fait Sandrine elle voulait pas du tout qu'on voit le mensonge là-dedans. Et moi j'ai trouvé ça plus subtil et plus agréable de se dire bon c'est comme dans la vie en fait. Il y a des choses qu'on cache et en fait on s'en rend même plus compte qu'on ment. C'est ça. C'est ça. Mais Malo, il fait quand même partie intégrante de la vie de Lisa et quand en fait on le voit quand elle est mal et quand elle est on le voit au début quand elle est heureuse parce qu'elle vient de rencontrer Violette et puis après au milieu quand il vient de se passer plein d'événements il est là aussi et du coup il est là au moment phare de la vie de Lisa quoi.
Le saut
2.
Le Vidiable était déjà très physique. Est-ce que le saut 2 sera aussi très physique?
Alors Philippe, il a fait des choses vraiment extraordinaires. Philippe qui joue Paul Villard, voilà Philippe Basse. Il a fait des choses vraiment très très extraordinaires dans un avion. Enfin, je vous laisse la surprise, mais c'est vraiment très très fort. Moi, mon personnage, elle vit plein de trucs, mais physiquement, c'est un peu moins difficile que le premier. À mon grand regret, parce que moi, j'aimais bien ce challenge. Voilà, sportif, dont on n'a pas l'habitude en France, mais ça reste de l'action pure et dure. Voilà, ça va bien dépoter.
Le cinéma, il y a eu Slalom.
Ouais.
On en avait parlé.
Ouais.
Il y a eu des retours dessus.
Il a touché pas mal de monde. C'était compliqué en plus parce que il est sorti pendant la Covid. Voilà. Et au final, on a eu beaucoup, beaucoup de retours. Charlène, la réalisatrice aussi. On en a entendu parler, donc je trouve que c'est vraiment important. Et c'est vrai que faire des films comme ça, avec des messages aussi forts, moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, quoi. Donc Slalom, c'était une belle preuve d'amour et d'écoute pour toutes les personnes qui subissent des viols. Là, c'est dans un milieu sportif, mais peu importe où, en fait. Parce que c'est horrible et de faire des beaux films là-dessus, c'est trop important, quoi.
Chacun de tes rôles que tu as fait, il y a toujours un message. Il y a toujours quelque chose de fort.
C'est comme c'est vrai. Pays,
pareil.
Ouais.
C'est très fort.
Ouais, ouais.
La personne qui s'est séquestrée. C'est comme ça que tu es appelée par un rôle ou... Comment tu... Enfin, voilà, quand on te présente un projet, alors tu sais pas le casting.
Bien sûr.
Tu as cette envie de
moi, ouais.
Par rapport à l'histoire et par rapport au message que tu vas apporter.
Personnellement, oui, surtout que je trouve que c'est un moyen de parole. Comme je disais tout à l'heure, ça réveille des trucs en moi que je croyais enfouis et inexprimés. Et en fait, de se rendre compte que ça arrive. Et ça m'a fait beaucoup grandir. Et je pense que pour les rôles, effectivement, j'ai tout de suite une attache plus forte quand il y a un vrai message, un vrai engagement, même si moi, par exemple, j'adore les comédies, j'adore jouer des comédies, des trucs qui sont purement divertissants, ou alors le jeu avec les mots, parce que moi, j'adore les scénarios, en fait. Et donc, souvent, je réécris, je remanie, mais c'est juste pour que ça passe dans la bouche, et pas que sur du papier. Mais voilà, du coup, des comédies de mots, moi j'appelle ça, enfin je trouve ça extraordinaire, et ça m'attire aussi beaucoup. Mais quand il y a un message fort et important, bah c'est que du plus quoi.
Alors justement, on avait une stagiaire avec nous au Festival des Bichoux, et elle nous a apporté une question. Cette question, c'est en un mot, définis le Gorée, donc toi, en un mot, comment définirais-tu la vie de l'enfant?
En un mot. Moi je dirais ouais c'est ça c'est la stagiaire
qui est avec nous, la troisième, qui avait sa question.
Mais c'est une belle question. Bah, pour la vie devant toi, moi je dirais jeunesse. Voilà, c'est la jeunesse. La jeunesse, parce que en fait bah déjà enfin c'est un amour hyper jeune qu'elles ont. Comme on disait tout à l'heure, c'est un truc qui est décuplé, qui est énorme, c'est-à-dire qu'elles se voient une fois et elles tombent follement et grandement amoureuse. Et puis il y a la première fois avec les filles, il y a les questions qu'on se pose à cet âge-là ou pas, mais en tout cas qui peuvent être traversées. Et puis il y a les parents qui jouent aussi un rôle important. Il y a l'amour, il y a les doutes, il y a la honte, il y a le fait de pas encore s'assumer pleinement. Pour moi, c'est vraiment le seuil premier de la jeunesse avant de passer un cap et de rentrer après dans l'âge adulte, ou du moins un âge plus mûr. Mais c'est le tout début, quoi, l'émergence de tout ça, de la vie, en fait. La vie devant soi, bah, ça porte bien son nom. Ça porte vraiment bien son nom.
Je vais vite fait rebondir sur ça, sur cette ouverture très ouverte. Et on avait mis cette hypothèse que peut-être il y aurait une suite. Le film actuellement s'appelle La vie devant toi. Alors, la vie. Qui s'appelle La vie avec toi.
La vie. Oh, c'est beau, ce serait bien. La vie avec toi.
Si cela se fait, est-ce que tu serais partante?
Ah, moi, oui, bah, en plus, parce qu'on a vraiment créé un truc avec Zoé, d'amical et de très très fort. Et du coup, en fait, quand on a dû rejouer ensemble pour Le Sentier des Loups, on s'est retrouvés, on s'est dit, mais comment on va faire? Parce qu'en fait, maintenant, on fait que rigoler ensemble. Et ça va être tellement dur. Et au final, une fois qu'on est sur, au travail, quoi, on rigole, mais on est concentré et on sait pourquoi on fait ça et que c'est important. Et donc, du coup, moi, bien sûr, que tous les films, on me dit Yazo et Errant, je dis oui.
Des projets,
oui, j'ai deux nouveaux films qu'on va tourner à la fin de l'année, là. Et c'est deux longs métrages de registres totalement différents. Il y en a un qui parle beaucoup d'écologie, de poids de l'écologie, donc je trouve que c'est vraiment ancré dans la société actuelle, voilà. Et donc c'est parfait. Et l'autre, bah, c'est une comédie de mots, j'appelle ça, avec un réalisateur avec qui j'ai déjà travaillé, Pascal Thomas, que j'aime beaucoup, et qui écrit vraiment très bien et qui réalise très bien. Et c'est des films qui sont vraiment j'ai l'impression qu'ils sont très intimes, dans le sens où ils sont pas montrés, ils sont pas, je sais pas, ils sont pas vantés en fait. Ils sont, voilà, moi c'est mes petites pépites que j'aime beaucoup, et donc du coup je suis très contente de repartir avec lui. Voilà.
Beaucoup,
avec plaisir, merci à vous.
Suivre,
ben, avec grand plaisir.
Que du bonheur de pouvoir parler avec elle. Elle est rayonnante. Elle en plus, elle soutient énormément ce film. La complicité qu'elle a avec Zoé Errant, eh bien, c'est parce qu'elles sont amies. Donc ça fait que plaisir de les voir toutes les deux complices dans ce film pas très facile. Parce que comme je le disais, Lisa Le Goff, elle a une famille, ben, très protocolaire, très religieuse, très portée sur la coutume, voilà les choses qu'il faut respecter, et pas évident du tout. Le rôle de la maman est joué par Christelle Reboul, et franchement elle est vraiment très forte dans son interprétation de Jeanne Le Goff. Le papa est joué par Philippe Dussault, Constantin Le Goff, et je vous avais parlé hier du frère, et oui, le frère Alban Le Goff, qui est joué par Tristan Zanchi et qui va vraiment perturber la vie amoureuse de ces deux filles, parce que elles se rencontrent, elles tombent amoureuses, et l'une accepte complètement son homosexualité, le fait d'aimer les filles et d'être attirée par les filles et de tomber amoureuse. Et Maïra Schmidt, qui joue Lisa Le Goff, elle est plus réticente, parce qu'elle a vraiment du mal. Et comme vous avez pu l'entendre dans l'interview avec Mayra Schmidt, Lisa a un ami qui s'appelle Malo, qui est joué par Aymeric Fougeron. Et en fait, il est là, il lui sert un peu d'alibi. Ils font croire qu'ils sortent ensemble et tout, en fait, qu'ils sont super copains et que lui, il sait sa condition, il sait qu'elle aime, qu'elle préfère les filles. Et du coup, il est toujours là pour l'aider. Et puis à un moment donné, il lui dit, si tu as vraiment envie de vivre comme ça, fais-le, quoi. N'aie pas peur, ouvre-toi et fais-le. Et c'est vrai que c'est ces deux côtés. C'est le fait qu'il y a une fille qui s'assume, qui malheureusement, il va se passer quelque chose et elle va avoir très très peur. Et en plus, elle va se dire, est-ce que j'ai été manipulée? Est-ce que Lisa s'est moquée complètement de moi? Est-ce que elle a fait ça parce que elle voulait justement casser de l'homosexuel? Ou est-ce qu'elle est vraiment amoureuse et que au contraire elle a peur et il y a plein de choses qui se cachent? Et de l'autre côté, Lisa qui se dit il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le placard et je dis pas et je laisse couler et je la laisse partir alors que je suis amoureuse? C'est, moi je trouve que c'est un très beau au cinéma de parcours de vie. Ben je trouve que ça montre vraiment ces deux côtés. Et moi quand je l'ai vue jouer, j'ai été véritable coup de cœur pour cette actrice. Et d'ailleurs je lui ai dit que pour moi, si elle gagnait pas le prix d'interprétation féminine, je me poserais des questions. Alors, au début, je lui ai dit ça, et il y avait Zoé à côté, et je lui ai dit, non mais tu joues très bien, hein. Mais en fait, s'il pouvait y avoir un duo, si vous pouviez gagner toutes les deux, ce serait top, mais je pense pas que, il donne le prix à un duo. Et je lui ai dit, c'est vrai que, et puis en plus, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour cette actrice, parce qu'à chaque fois qu'elle joue quelque chose, elle est forte. Dans Léo Mattei, c'était la fille, de Jean-Luc Reichmann. Elle avait un rôle hyper compliqué. Elle avait été enlevée, séquestrée. Il y a eu plein de choses. Elle est à chaque fois, dans chaque interprétation qu'elle fait, elle a vraiment ce truc qui fait que tu tombes et tu dis wow, elle a vraiment quelque chose. Et moi je l'attends avec impatience au cinéma prochainement dans le film de Pascal Thomas, mais on en parlera avec elle, j'en suis persuadée. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce soir en prime time sur France 2 pour découvrir La vie devant toi, un véritable petit bijou réalisé par Sandrine Vessier, et le scénario est fait par Françoise Charpia. Et franchement, ne ratez pas ce film, parce que c'est un pur bonheur et c'est vraiment un message très 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 fort. Donc rendez-vous ce soir en prime time, donc à 21h10-15 je pense, sur France 2. Soyez au rendez-vous. C'était Chaud Devant TV avec La Vie Devant Toi. Merci énormément au Festival de Fiction de La Rochelle de nous offrir à chaque fois des films, des séries incroyables et de m'avoir permis de faire l'interview de Zoé Errant et Mayra Schmidt qui, je le rappelle, ont obtenu toutes les deux le prix d'interprétation féminine du Festival. It's always tease, tease, tease.